Retour à question d'actualité sur les ondes de la radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, on va vous parler de quelqu'un de bien connu, Jordan Peterson. Il fait beaucoup parler de lui depuis plusieurs années. On l'adore, on le déteste, mais en tout cas, il fait réfléchir. Il sort un livre sous peu sous le titre anglais « Beyond Order ». Traduction littérale, au-delà des ordres ou de l'ordre. L'ouvrage n'est pas encore traduit en français, mais les minutes qui suivent nous permettront de nous familiariser avec la pensée de cet homme peu commun qui dit souvent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Point de vue avec François Miville-Deschênes, consultant et chargé de cours en communication à l'Université Saint-Paul, également formé en histoire. Bonsoir, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Jordan Peterson, c'est quelqu'un de très connu. Vous le lisez depuis longtemps, vous? Parce que je crois qu'il est beaucoup sur les médias sociaux, non?
Il est sur les médias sociaux depuis un bon bout de temps, oui, parce que... Mais d'abord, est-ce qu'on va le situer, Jean-Philippe? C'est un psychologue. Oui. Alors, psychologue-thérapeute, donc un psychothérapeute qui fait de la clinique, mais aussi un professeur à l'Université de Toronto, un homme de 58 ans, originaire de l'Alberta.
D'accord.
Ce qui joue... Oui. Oui.
Il n'y a pas Il y a un bouquin, je le disais, qui est sorti en anglais, Beyond Order, qui n'est pas encore traduit et qui est une suite d'un livre qui, lui, a été traduit et dont vous voulez parler, je pense, non?
Ben effectivement, je vais y référer pour brosser un portrait de cet homme-là parce qu'il va faire l'actualité. Il y a aussi une question d'actualité toute fraîche dont on m'a mis au courant ce matin. C'est l'emprisonnement d'un certain monsieur nommé Robert Hoogland en Colombie-Britannique, mais oui. Ça a un rapport avec les controverses de Jordan Peterson, effectivement.
D'accord.
Alors, mais simplement pour dire que vous avez raison, homme qui est beaucoup dans les médias sociaux, parce qu'en tant que professeur, il s'était créé une chaîne YouTube et donne ses cours, il filme ses cours, et voilà, c'est possible de les voir sur les médias sociaux, très 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 actif sur Twitter, j'ai vérifié dernièrement, et bien sûr, c'est ça, c'est qu'il vient de sortir son livre Beyond Under, qui est la suite de, je vous dis le titre en français, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos.
Mais il parle là comme psychologue ou comme moraliste? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui donne des conseils. 12 règles pour une vie, ça dépasse la psychologie, surtout quand on parle d'antidote au chaos. C'est quoi les thèmes qu'il agite en général, Jordan Peterson?
Bon, alors ce dans quoi il est compétent, si vous voulez,
oui, oui.
C'est la psychologie sociale, la psychologie du comportement, les croyances religieuses, idéologiques, l'évaluation de l'amélioration de la personnalité, de la performance individuelle. Mmh. Et pour l'anecdote, je vais vous dire comment ça a commencé ce livre-là. La genèse du livre, c'est qu'il y a un site internet qui est comme un forum où on pose les animateurs posent des questions et les gens doivent répondre. Et c'est toujours dans l'ordre du sérieux, pas de Enfin, on répond sérieusement et les lecteurs attribuent des notes. Bon, alors. À un certain moment donné, il y a une personne qui a demandé « Quelles sont les choses que toute personne devrait savoir? »
C'est vaste comme question.
Oui, et lui a répondu par une liste de 12 choses que les gens devraient savoir pour être heureux dans la vie, si vous voulez, ou réussir leur vie. Mm-hmm. Et ça a généré beaucoup de discussions, beaucoup de likes, si vous voulez, d'appréciation. C'est bien qu'il y a une éditrice qui a vu tout ça, puis qui lui a dit « Pourquoi tu n'écrirais pas un livre? » Il a donc repris sa liste de 12 règles et bien sûr les a étoffées. Alors quand vous me demandiez qu'est-ce qu'il accroche et tout, c'est vraiment un mélange, c'est parfois aussi ce qu'on lui reproche. Alors il pige dans son expérience de thérapeute de terrain, clinicien, il pige dans ses connaissances à lui, il pige beaucoup, beaucoup dans les mythes primordiaux, incluant les mythes bibliques, c'est un chrétien. Il fait des références beaucoup aux Écritures, mais il fait référence aussi à d'autres mythes, d'autres cultures.
Oui, pardon.
Ben, c'est ça. voilà, alors donc, c'est un peu tout ça. C'est parfois un peu difficile à lier. lier les éléments. Ce que je lui reproche un petit peu, moi, c'est que ça manque un peu de fluidité là, dans les passages d'un, si vous voulez, d'une démonstration psychologique clinique à une démonstration mythologique. Là, c'est pas toujours parfois facile à suivre.
Mais pardonnez-moi, François Mille de Chêne, mais on parle de Jordan Peterson, qui est un personnage de plus en plus connu.
Oui.
Quand je lis sur lui, on le déteste ou on l'adore. Alors, beaucoup d'hommes dans le combat pour la reconnaissance de droits des hommes, des pères, etc., vont le citer, ils vont voir en lui un héros de leur cause. Les adeptes de la théorie du genre, de la religion du genre, devrait-on dire, le détestent, je pense. Il me semble que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les archétypes et qui dit, ben voilà comment ça marche l'humanité. Cessez de niaiser, cessez de jouer avec le feu inutilement. Est-ce que c'est l'impression que j'ai, moi? Est-ce que je me trompe ou pas, François Méville de Chêne?
Non, vous ne vous trompez pas. Pour lui... Oui. Il y a l'ordre et le chaos.
Ah.
OK. Et ça me rappelle ma récente chronique sur le sublime où le philosophe Burke, Britannique Burke et Turner, le peintre, nous amenaient sur une fine ligne là, près, entre une fine qui nous donnait une terreur délicieuse, disait-on.
Ah oui.
OK. Et alors, entre le danger et la sécurité. Alors ça c'est beau quand on regarde une œuvre d'art, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais on n'est pas vraiment en danger de tomber en bas de notre chaise. Sauf que dans la vraie vie, ben lui c'est comme ça qu'il voit ça, Peterson, l'ordre et le chaos, et ses règles sont pour nous éviter de tomber dans les excès de l'un et l'autre. Ben, notamment dans le chaos, mais aussi il dénonce l'ordre trop structurant, l'ordre qui devient étouffant.
Alors, on est tout le temps, l'humanité, si je vous comprends bien, est prise, d'après Jordan Peterson, entre la sclérose ou l'institution ou la règle stricte ou le conservatisme constipant ou la licence, la liberté, le chaos, l'auberge espagnole, l'anarchie.
Voilà. Et ce qui l'amène à prendre position sur des sujets controversés, c'est que... Oui. Si je lis entre les lignes, il les voit comme étant le chaos. Alors, il est devenu connu, justement, vous parliez de la théorie du genre, en 2016, lorsque le projet de loi C-16 a été déposé et débattu au Parlement canadien. Alors, ça, c'est le projet de loi modifiant la loi canadienne sur les droits de la personne et le code criminel. Mm-hmm. Personnellement, je n'en ai pas beaucoup entendu parler au Québec. C'est maintenant une loi, ça a été adopté. Et ce projet de loi-là, ce que ça fait, c'est que ça ajoute les termes identité et expression de genre, donc le concept d'identité de genre et son expression, à la liste des motifs qui pourraient, sur la base desquels il ne faut pas exclure quelqu'un en vertu de la Charte des droits et libertés. Et ça change même deux articles du Code criminel en disant qu'il peut y avoir des pénalités pour quelqu'un qui ne respecte pas cela. Alors, je vous donnerai un exemple tantôt. Alors, Jordan Peterson s'est élevé contre ça en disant « On ne viendra pas me dire comment appeler quelqu'un, quel vocabulaire utiliser, c'est un empêchement à mon droit à la liberté d'expression. » Alors, je vous donne un exemple. Il y a en français et peut-être plus en anglais toutes sortes de pronoms qui ont été proposés pour éviter de sexuer quelqu'un. Alors, au lieu de dire « il » ou « elle », on propose le pronom « yel », c'est-à-dire « i-e-l ». Combinaison de il et elle. En anglais, here. Combinaison de his and her. Bon, tout ça. Et ça, c'est une chose. Aussi, l'importance que si quelqu'un vous dit, malgré son apparence, malgré sa physionomie, malgré ses attributs physiques, si quelqu'un vous dit, je suis une femme, vous devez considérer cette personne comme une femme et la nommer comme une femme selon le nom qu'elle vous dira et prendre un, si vous voulez, vous pouvez prendre les pronoms neutres ou si vous voulez pas, vous l'appelez cette personne-là qui peut avoir du poil au mollet et être bâtie comme un homme, selon Sarah, si elle vous demande de l'appeler Sarah. Alors, voilà, ça c'est donc inscrit maintenant dans le code de la loi et c'est ce qu'il y en a. Son argument était, la liberté d'expression.
Mm-hmm. Oui, c'est l'argument classique des gens qui pourfendent ceux qui veulent faire trop de comment dirais-je, social engineering, trop de manipulation dans le social, dans l'humain. Je veux dire, non. Ma liberté d'expression, c'est de dire non, je ne suis pas d'accord avec vous, donc sauvegarder ma liberté d'expression au lieu de me bâillonner.
Ouais, c'est ça. Puis c'est parce que on peut pas. Je pense que c'était le seul argument rhétorique qu'il pouvait utiliser, ne pouvant pas démontrer si c'est vrai ou non. Vous savez, la dysphorie, le fait de pas se sentir bien dans le corps qui nous a été attribué, Et le fait même de penser qu'un corps nous est attribué, bon, tout ça. Alors, je pense qu'il ne pouvait pas apporter d'exemple biologique, donc il s'est rangé dans sous cet argument-là. Mais il y a quelque chose, et il disait, c'est parce qu'on le criminalise, c'est surtout ça, là. Oui. C'est une loi qui va nous dire quoi faire et c'est vraiment un empêchement à la liberté individuelle. Et on le voit, la semaine dernière, en Colombie-Britannique, il y a un monsieur Robert Hoogland qui est maintenant en prison parce que, depuis 2 ans, son enfant, qui a 14 ans, qui était une fille au départ. Donc, son enfant, depuis 2 ans, dit « Non, je suis un garçon » et tout et tout. L'homme est séparé, sa femme encourage l'enfant à changer de genre. Lui est contre. Lui a continué d'appeler l'enfant sous son nom de fille, désigné comme une fille, et s'est opposé à tout changement de sexe, okay? D'injection d'hormones, etc.
Au motif que l'on... L'enfant est mineur encore.
L'enfant est mineur maintenant à 14 ans, c'est ça. Mais ça fait 2 ans. Oui, sont, bon. Et bref, il y a eu la cour de la Colombie-Britannique lui a ordonné de cesser cette action-là qu'il appelle du harcèlement puis de l'abus familial. Et voilà. Et donc, il est judiciarisé. Et bon, là, il est en prison parce que on lui a défendu, puisque l'enfant est mineur, de donner le nom de l'enfant et son nom à lui, parce qu'on pourrait reconnaître l'enfant de la sorte. Et il de pas débattre le cas sur la place publique. Et ça, il a pas voulu. Il a débattu le cas sur la place publique. Il s'est nommé, il a nommé l'enfant. Et voilà. Donc, c'est pour ça que là, qu'il est en prison. Donc, c'est pas, mais il est quand même judiciarisé parce qu'il y a eu un ordre de la cour d'arrêter d'appeler son enfant par des noms, prénoms féminins, de référer à cet enfant-là comme si c'était une fille, et de s'arrêter, de s'opposer à ce que cet enfant-là reçoive de la testostérone. Et lui, ce qu'il en a aussi, c'est que ce sont les gens de l'école où cet enfant-là va qui ont dit « oui, ce serait mieux pour elle qu'elle devienne un homme, donc on y va avec les injections de testostérone », et il n'a pas été averti. Alors, voyez-vous, c'est là que Jordan Peterson, on peut dire, avait raison d'avoir peur de la loi C-16, du projet de loi C-16.
Mais ça, j'imagine, c'est du bonbon pour des gens comme Jordan Peterson, parce que j'imagine qu'on a aussi le conflit entre le père et la mère, le père qui, lui, va être culturellement ou traditionnellement garant d'une institution, d'une continuité, d'une stabilité, d'une structure. Ça, encore une fois, j'imagine que Jordan Peterson voit dans ce conflit britanno-colombien dont vous parlez, François, l'illustration de deux pôles. Il y a l'ordre et la structure contre le chaos et la liberté, le père, la mère, le tu dois ou tu peux. J'imagine que Jordan Peterson est celui qui comprend la nécessité des deux et qu'il faut négocier.
Oui, sans doute, parce que à ma connaissance, il ne s'est pas prononcé sur ce cas-là. On me l'a signalé et c'est moi qui vous l'apporte. Et c'est de l'eau à son moulin. Cependant, oui. Alors, on lui reproche, par exemple, de défendre le patriarcat. Alors, d'accord. Inutile de vous dire qu'il est anti-féministe. Dans la façon dont le féminisme s'exprime de nos jours. Mm-hmm. Alors, il l'a dit lui-même en entrevue, parce que non seulement on peut lire ses livres, mais on peut le voir dans ses podcasts, sa chaîne YouTube et les multiples entrevues qu'il accorde, parce que ça sème la controverse et c'est payant. Donc, il a dit, mais je l'ai entendu le dire, qu'il n'est pas contre, il est en faveur de les mêmes chances pour tout le monde, quel que soit le sexe. Mais il défend le patriarcat. Donc là, peut-être, oui, effectivement, que c'est là le lien qu'on peut faire avec ce monsieur Robert Hoogland, qui, lui, agit en patriarche envers son enfant, si vous voulez.
Est-ce qu'il parle d'une nature masculine et d'une nature féminine, Jordan Peterson, ou est-ce qu'il est plus... Parce qu'on a d'un côté les tenants d'une rigidité et les autres les tenants d'une fluidité totale où tout peut changer en tout. Où se situe Jordan Peterson là-dedans?
Écoutez, lorsqu'on lui a demandé « Est-ce que vous considérez qu'une femme transgenre est une vraie femme? » Sa réponse, c'est non.
D'accord.
Et pourquoi, lui demandera-t-on, c'était une féministe? Il dit « Parce que cette personne n'a pas le chromosome X, n'a pas les hormones qu'il faut et n'a pas les organes sexuels secondaires et primaires qu'il faut pour être une femme. » Alors voilà, et c'est ça, donc il reste, lui, alors ça c'est sa portion ordre, il y a pour lui toujours un ordre qu'on ne peut pas changer, mm-hmm. C'est comme un peu un ordre mondial.
Et
la même chose, pardon?
Un archétype?
Ouais, ça va du côté de l'archétype, et oui. C'est même, ben oui, mais c'est même plus que ça, il y a des côtés qui sont plus, qui sont pas archétypaux, il va dire, lui est un défenseur, comme moi, je le dis, du fait que les hommes et leur testostérone ont plus d'agressivité. Mm-hmm. Et ça, on en a déjà parlé dans une autre chronique sur la masculinité toxique.
Oui, oui.
Et que le fait que la masculinité n'est pas toxique en elle-même, il faut simplement apprendre à canaliser l'énergie, souvent agressive, qu'on retrouve chez les garçons.
Pardonnez-moi, François Méville-Deschênes, il nous reste 3 minutes. Jordan Peterson, je ne sais pas si je vais trop loin, mais j'ai l'impression que c'est un défenseur de l'idée de civilisation, de certaines, parce qu'il est pour les archétypes, il est pour l'ordre, tout en sachant que l'ordre, tout simplement, est mortifère, tout comme la fluidité extrême serait mortifère.
Voilà, c'est le cas, oui.
C'est le cas au total. Je veux dire, Jordan Peterson est vraiment... Est-ce qu'il pense en termes de culture, en termes de civilisation, en termes de pérennité, de stabilité ou pas?
Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est la stabilité, c'est de se tenir, de savoir rester sur cette ligne entre le chaos et l'ordre. Mm-hmm. Et c'est ça qui va nous sauver. La façon dont il le conçoit, cependant, n'est pas une intervention de l'État, ou d'une instance supérieure, mais bien d'un travail personnel sur nous-mêmes. Ça, c'est pourquoi souvent ces livres ressemblent à quelque chose du développement personnel, self-help qu'on appelle en anglais.
Ouais,
alors,
ouais.
Par exemple, il va vous dire dans ces 12 règles du premier livre, ben faites le ménage de votre maison avant de critiquer les autres. Tenez-vous droit, marchez droit. Mais ça, c'est une phrase, mais il y a comme 50 pages d'un chapitre qui vont expliciter pourquoi, comme je vous disais, sous des prétextes, avec des exemples cliniques, mais aussi archétypaux et mythologiques. Bon. Et c'est toujours l'individu. Il responsabilise l'individu et on peut lire entre les lignes qu'il est contre la déresponsabilisation en disant c'est la faute des autres ou pourquoi est-ce qu'on, justement, on se trouverait pas chacun notre genre ou comme quelqu'un me disait sur Twitter récemment, oui, on devrait favoriser l'éclosion de multiples masculinités. Alors lui, il va dire non, non. Ne confondez pas la racine du concept et son expression. Donc, ne confondez pas l'archétype et le stéréotype.
Si je vous comprends bien, il y a un homme, mais qui peut se décliner en plusieurs manifestations.
Oui, mais ça, c'est moi qui le dis. Mais
c'est vous qui l'avez dit.
Je pense que c'est dans son esprit, oui.
D'accord. En une minute, il nous reste une minute pour parler de Jordan Peterson, c'est pas assez. Est-ce qu'il est bien vu des psychologues ou souvent les électrons libres comme ça ont tendance à être détestés, adulés pour
les mauvaises raisons? Personnes qui l'ont classé dans ce qu'ils appellent le intellectual dark web, c'est-à-dire le dark web intellectuel. Bon, c'est une blague. C'est un autre chercheur américain, Eric Weinstein, qui a à peu près les mêmes idées, là, mais qui a été, quand on parlait de cancel culture il n'y a pas longtemps, qui a été comme repoussé à cause de ses opinions. Et il se dit, ouais, c'est ça, moi, on fait partie du intellectual dark web, du dark web intellectuel. Bon, et c'est pas vrai, là, leurs écrits sont pas sur le dark web.
Je comprends.
Mais c'est une blague. pour dire qu'ils sont mis à l'écart, ils sont rejetés. Alors oui, il y a des gens qui, beaucoup qui le détestent, Jordan Peterson, mais il est aimé. Il le dit lui-même, je le voyais encore dans une entrevue ce matin.
Oui,
il est aimé des hommes, il est aimé des jeunes hommes, il offre quelque chose auquel ils peuvent s'accrocher pour trouver un sens à leur vie.
Merci beaucoup, François-Louis Deschênes. On vous retrouve dans deux semaines.
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup, vous nous parlez de Jordan Peterson. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la dématérialisation des échanges et la déshumanisation du commerce. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci beaucoup de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.